journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Juan Gomez pour rappel sur l'actualité. Juan, il sera question du Tchad.
Notamment, on parlera du Tchad, effectivement, et de ce projet d'amnistie qui concerne pas moins de 300 rebelles et opposants. Merci.
Radio G. 101.5 FM.
L'arbre. Écoute l'arbre et la feuille. La nature est une voix qui parle à qui se recueille et qui chante dans les bois. Bonjour à tous. Bonjour Flora.
Bonjour ma Daphné.
Ça va?
Ça va bien et toi?
Oui. Commence cette émission avec quelques mots de Victor Hugo pour débuter cette émission dédiée entièrement aux arbres. Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme histoire à raconter aujourd'hui autour des arbres?
J'en ai trouvé trois. Oui. Donc, j'en ai une qui s'appelle l'arbre magique.
Oui, de la magie.
Un petit peu de magie, c'est un petit peu drôle aussi.
D'accord.
J'en ai une autre qui s'appelle l'arbre lecteur.
D'accord.
Et ma troisième histoire s'intitule Le conte de l'arbre courageux.
Très bien, très bien.
Tout un programme.
Eh bien, j'entends ça. Eh bien, moi, j'ai trouvé, peu de temps avant de préparer l'émission, un recueil donc d'Henri Gougaud qui s'appelle L'arbre d'amour et de sagesse, conte du monde entier. Et j'y ai pioché deux histoires. Une histoire arménienne qui s'appelle le maître du jardin et une histoire indienne qui s'appelle l'arbre. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de vous les proposer aujourd'hui.
On espère que nos histoires et notre sélection musicale va vous plaire.
Oui, et puis on vous laisse tout de suite avec la première histoire. À tout à l'heure.
Bonne écoute.
Tout compte fait.
Le maître du jardin. Il était un roi d'Arménie. Dans son jardin de fleurs et d'arbres rares poussait un rosier chétif et pourtant précieux entre tous. Le nom de ce rosier était Anaakan. Jamais, de mémoire de roi, il n'avait pu fleurir. Mais s'il était choyé plus qu'une femme aimée, c'est qu'on espérait une rose de lui, l'unique dont parlaient les vieux livres. Il était dit ceci. Sur le rosier Anaakan, un jour, viendra la rose généreuse, celle qui donnera au maître du jardin l'éternelle jeunesse. Tous les matins, le roi venait donc se courber dévotement devant lui. Il chaussait ses lorgnons, examinait ses branches, cherchait un espoir de bourgeon parmi ses feuilles. N'en trouvait pas le moindre. Se redressait enfin, la mine terrible, prenait au col son jardinier et lui disait « Sais-tu ce qui t'attend, mauvais bougre, si ce rosier s'obstine à demeurer stérile ?» La prison, l'oubliette profonde. C'est ainsi que le roi, tous les printemps, changeait de jardinier. On mettait au cachot celui qui n'avait pu faire fleurir la rose, un autre venait qui ne savait mieux faire et finissait sa vie comme son malheureux confrère entre quatre murs noirs. 12 printemps passèrent et 12 jardiniers. Le 13e était un fier jeune homme. Il s'appelait Samvel et dit au roi « Seigneur, je veux tenter ma chance. » Le roi lui répondit « Ceux qui t'ont précédé étaient de grands experts, des savants d'âge mûr, et ils ont tous échoué. Et toi, Blanc-Bec, tu oses. Bah oui, je sens que quelque chose en moi me fera réussir, dit Samvel. Et quoi donc, jeune fou? La peur, seigneur, de mourir en prison. Samvel, par les allées du jardin magnifique, s'en fut à son rosier. Il lui parla longtemps, à voix basse. Puis il bêcha la terre autour de son pied maigre, l'arrosa, demeura près de lui nuit et jour à le garder du vent, à caresser ses feuilles. Il enfouit ses racines dans du terreau moelleux. Aux premières gelées, il l'habilla de paille. Il se mit à l'aimer. Sous la neige, il resta comme au chevet d'un enfant à chanter des berceuses. Le printemps vint. Samvel ne quitta plus des yeux son rosier, droit et frêle, guettant ses moindres pousses, priant et respirant pour lui. Dans le jardin, des fleurs partout s'épanouirent, mais il ne les vit pas. Il ne regardait que la branche sans rose. Au premier jour de mai, comme l'aube naissait, il lui dit « Rosier, mon fils, où as-tu mal ?» À peine avait-il dit ces mots qu'il vit sortir de ses racines un ver noir, long, terreux. Il voulut ainsi le saisir, mais un oiseau se posa sur ses mains et les ailes battantes lui vola sa capture. À l'instant, un serpent surgit d'un buisson proche, il avala le ver, il avala l'oiseau. Alors un aigle descendit du haut du ciel, il tua le serpent, le prit dans ses serres et s'envola. Comme il s'éloignait vers l'horizon où le jour se levait, un bourgeon apparut sur le rosier. Samvel le contempla, il se pencha sur lui, il l'effleura d'un souffle et lentement, lentement, la rose généreuse s'ouvrit au soleil du matin. Oh, « Merci, merci » dit-il. Il s'en fut au palais en criant la nouvelle. Le roi était au lit, le roi bâilla, le roi grogna. « Moi qui dormais si bien !»« Seigneur, seigneur !» lui dit Samvel, « la rose Anaakan s'est ouverte. Vous voilà immortel, ô maître du jardin !» Le roi bondit hors de ses couvertures, ouvrit les bras et rugit. « Merveille !» En chemise, pieds nus, il sortit en courant. « Qu'on poste 100 gardes armés de pied en cap autour de ce rosier. Je ne veux voir personne, a dit Dieu à la ronde. Samvel, jusqu'à ta mort, tu veilleras sur lui. » Samvel ne put que lui répondre. « Jusqu'à ma mort, Seigneur. » Le roi, dans son palais, régna 10 ans encore. Puis un soir, il quitta ce monde en disant ces paroles. « Le maître du jardin meurt comme tout le monde meurt. Tout n'était que mensonge. »« Non, » répondit Samvel, à genoux près de lui. « Le maître du jardin, ce ne fut jamais vous. La jeunesse éternelle est à celui qui veille, et j'ai veillé, Seigneur, et je veille toujours de l'aube au crépuscule et du crépuscule au jour. » Samvel ferma les yeux du roi, puis sortit sous les étoiles. Il en salua chacune. Samvel avait le temps, désormais, tout le temps.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Tout compte fait.
Il était une fois, dans un pays lointain, de l'autre côté de la mer, un petit arbre qui avait poussé presque tout seul, loin de ses parents. Car les arbres ont des parents, beaucoup de gens l'ignorent. Ce petit arbre avait eu beaucoup de difficultés au début de sa vie d'arbre. Par exemple, ses deux racines principales, celles qui lui permettaient de se tenir debout, de résister au vent, avaient été très abîmées. Mais c'était un petit arbre courageux, vraiment courageux. La nuit, quand il pleuvait ou qu'un animal aurait pu lui marcher dessus et aussi le manger en croyant que c'était une herbe, il résistait, il s'accrochait à la vie. Et je peux vous le dire, ce n'était pas une vie facile de vivre dans ce pays de guerre, de famine et de violence pour les petits arbres, et même pour les grands. Puis un jour, des arbres d'un autre pays vinrent le chercher pour vivre avec eux. Mais ses racines étaient très très endommagées, et le petit arbre, très courageux, fut plâtré. Dans le nouveau pays où il vécut, on a soigné ses racines. Et bientôt, il a pu courir comme font tous les petits arbres. Il dut être opéré plusieurs fois, plâtré encore. Puis il commença à vivre vraiment sa vie d'arbre. Il découvrit le nouveau pays qui était le sien. Il commença à aimer ses parents arbres adoptifs. Bref, il les adopta à son tour. Ce que le petit arbre vraiment très courageux n'arrivait pas à dire, ce qu'il gardait comme un grand secret dans son cœur, c'était à la fois son désir de revenir un jour dans son pays de naissance, de retrouver sa terre, et en même temps sa peur d'être renvoyé dans son nouveau pays, qui était maintenant le sien. Il imaginait dans sa tête de petit arbre que si ses racines guérissaient totalement, alors ses parents adoptifs pourraient ne plus le garder. Ainsi, il était tiraillé entre des sentiments opposés. Il vivait un véritable combat en lui. Il voulait guérir, ne plus être opéré en même temps. Il avait très peur de guérir. Je vous l'ai dit au début, c'est un petit arbre très courageux. Il adorait ses parents adoptifs. Il voulait rester près d'eux et ne pouvait s'empêcher de penser oh, « Si je ne guéris pas mes racines, peut-être qu'ils me garderont. Mais si je ne guéris pas de mes racines, peut-être qu'ils me renverront. » Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce petit arbre et j'aimerais lui dire à l'oreille tout près, rien que pour lui. Tu sais, même un petit arbre a le droit de grandir et de vivre dans un pays où il n'est pas né. Si je le voyais, je lui offrirais un tout petit pot de la terre, de son pays au-delà des mers. Et tous les soirs avant de s'endormir, il pourrait regarder ce pot et se dire « Oui, j'ai le droit de rester ici avec mes nouveaux parents, et grâce à ce petit pot de terre, de rester relié. » Et je suis sûre que tout cela lui donnerait envie de guérir et de devenir un arbre grand et tout feuillu, de la même couleur que ses parents, dans son pays au-delà des mers. Oui, si je le rencontrais, je lui dirais tout cela. »
de maison, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser, je me débat, mais mes branches volent au bas. Si près des autos qui fument, entre béton. La fumée des usines, pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles, s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. D'honneur posthume, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville. Amis faits après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville.
Tout compte fait.
L'arbre. Dans un pays aride, fut autrefois un arbre prodigieux. Sur la plaine, on ne voyait que lui, largement déployé entre les blés malingres et le vaste ciel bleu. Personne ne savait son âge. On disait qu'il était aussi vieux que la terre. Des femmes stériles venaient parfois le supplier de les rendre fécondes. Des hommes, en secret, cherchaient auprès de lui des réponses à des questions inexprimables. Et les loups lui parlaient, certaines nuits sans lune. Mais personne, jamais personne ne goûtait à ces fruits. Ils étaient pourtant magnifiques, si luisants et dorés le long de ces branches maîtresses, pareilles à deux bras offerts dans le feuillage, qu'ils attiraient les mains et les bouches des enfants ignorants. Eux seuls osaient les désirer. On leur apprenait alors l'étrange et vieille vérité. La moitié de ces fruits étaient empoisonnés. Or tous, bons ou mauvais, étaient d'aspect semblable. Des deux branches ouvertes en haut du tronc énorme, l'une portait la mort, l'autre portait la vie. Mais on ne savait laquelle nourrissait et laquelle tuait. Et donc, on regardait, mais on ne touchait pas. Vint un été trop chaud, puis un automne sec, puis un hiver glacial. Neige et vent emportèrent les granges et les toits des bergeries. Les givres du printemps brûlèrent les bourgeons et la famine envahit le pays. Seul sur la plaine, l'arbre demeura imperturbable. Aucun de ses fruits n'avait péri. Malgré les froidures, ils étaient restés en aussi grand nombre que les étoiles dans le ciel. Les gens, voyant ce vieux père solitaire miraculeusement rescapé des bourrasques, s'approchèrent de lui, indécis et craintifs. Ils interrogèrent son feuillage. Ils n'en eurent pas de réponse. Ils se dirent alors qu'il leur fallait choisir entre le risque de tomber foudroyé, s'ils goûtaient aux merveilles dorées qui luisaient parmi les feuilles, et la certitude de mourir de faim s'ils n'y goûtaient pas. Comme ils se laissaient aller en discussion confuse, un homme, dont le fils ne vivait plus qu'à peine, osa soudain s'avancer d'un pas ferme. Sous la branche de droite, il fit halte, cueillit un fruit, ferma les yeux, le croqua et resta debout, le souffle bien heureux. Alors, tous à sa suite, se bousculèrent et se gorgèrent délicieusement des fruits sains de la branche de droite qui repoussèrent aussitôt à peine cueillis parmi les verdures bruissantes. Les hommes s'en réjouirent infiniment. 8 jours durant, ils festoyèrent, riant de leurs effrois passés. Ils savaient désormais où étaient les rejetons malfaisants de cet arbre, sur la branche de gauche. Ils la regardèrent d'abord d'un air de défi, puis leur vint une rancune haineuse. À cause de la peur qu'ils avaient eue d'elle, ils avaient failli mourir de faim. Ils la jugèrent bientôt autant inutile que dangereuse. Un enfant étourdi pouvait un jour se prendre à ces fruits pervers que rien ne distinguait des bons. Ils décidèrent donc de la couper au ras du tronc, ce qu'ils firent avec une joie vengeresse. Le lendemain, tous les bons fruits de la branche de droite étaient tombés et pourrissaient dans la poussière. L'arbre, amputé de sa moitié empoisonnée, n'offrait plus au grand soleil qu'un feuillage racorni. Son écorce avait noirci, les oiseaux l'avaient fui, il était mort.
Oublie la ville, oublie la vitesse, oublie l'agression verbale contre un arbre. Vois les nuages passer, le ciel s'ouvrir Écoute la rivière se taire Personne pour vous regarder Contre un arbre Contre un arbre Les jours à cran, les jours qui font écran, ils se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces contre un arbre. Laissez-vous vous porter sous le ciel ouvert, au bord de la rivière, à la langue liée. Les feuilles seront vos alliés. Seulement des taches de couleur mouvantes au bord de la rivière qui passera sans mot dire sur vos petites affaires, sur ce que vous aurez à faire.
L'arbre magique. Un voyageur très fatigué s'assit à l'ombre d'un arbre sans se douter qu'il venait de trouver un arbre magique. L'arbre a réalisé des souhaits. Assis sur la terre dure, il pensa qu'il serait bien agréable de se retrouver dans un lit moelleux. Aussitôt, ce lit apparut à côté de lui. Étonné, l'homme s'y installa en disant que le comble du bonheur serait atteint si un médecin venait soulager ses jambes percluses. Le médecin apparut et le massa. « J'ai faim !» se dit l'homme, « et manger en ce moment serait à coup sûr un délice. » Une table surgit, chargée de nourriture succulente. L'homme se régala. Il mangea et il but. La tête lui tournait un peu d'ailleurs. Ses paupières, sous l'action du vin et de la fatigue, s'abaissaient. Il se laissa aller de tout son long sur le lit, en pensant encore aux merveilleux événements de cette journée extraordinaire. Ah, « Je vais dormir une heure ou deux, » se dit-il. « Le pire serait qu'un tigre passe par ici pendant que je dors. » Et un tigre surgit aussitôt et le dévora.
On espère que nos histoires vous ont plu. On va vous donner rendez-vous le 16 décembre pour des contes gourmands.
Oui, histoire de vous mettre en appétit avant ces repas de fête.
Gargantuesque.
Oui, j'allais dire interminable. Enfin, ça dépend. C'est pas forcément partout pareil.
C'est vrai.
Mais
c'est
en
vrai.
Tout cas, oui, enfin, l'idée des fêtes de fin d'année, c'est quand même de prendre du plaisir ensemble à table. Proposera un petit florilège de contes gourmands pour vous mettre en appétit.
Voilà, et comme d'habitude, vous pouvez réécouter notre émission Tout compte fait sur radio-g.fr à la rubrique de l'émission.
Oui, et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. La semaine prochaine, donc, vous aurez rendez-vous avec J'entends des voix, et puis nous on se retrouve donc dans 15 jours pour ces fameux contes gourmands. Eh bien, à bientôt.
À bientôt, Daphné.
À bientôt, Flora.
Bonne journée.
Bonne journée à tous. Au revoir.
Radio G, 101.5 FM.
Vous aimez Radio G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique Faire un don. Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez pas.